Le réseau Afrique Santé de la Voix de l'Amérique propose
Votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir est exclusivement axé sur la lutte contre le sida en RDC.
Technique Skip Six et réalisation Fort Mokalala, micro Khalil Gay, votre santé, votre avenir commence maintenant. Les récentes flambées de l'épidémie d'Ebola en RDC et en Afrique de l'Ouest ont été compliquées par la faiblesse des systèmes de santé dans les pays touchés. Qu'est-ce qu'un bon système de santé? Quel est l'état du système de santé en République démocratique du Congo? C'est notre thème d'aujourd'hui et nous avons comme invité...
Félix Kabangé-Nguema-Kompa, je suis médecin de formation et ministre de la Santé publique en République démocratique du Congo. Je remercie la Voix de l'Amérique pour l'honneur qui m'a été fait pour participer à cette émission. Votre santé, votre avenir.
Merci Monsieur le ministre. Gardez l'antenne. Nous aurons aussi nos auditeurs qui nous appellent depuis les différentes provinces de la RDC. D'abord à Boma, nous avons Jean-Michel Kouah. Jean-Michel, bienvenue.
Oui, bienvenue à l'émission, je vous écoute.
Merci Jean-Michel, gardez la ligne. Merci. Et à Kananga, nous avons Dieudonné Ndaï. Dieudonné, vous êtes là?
Oui, je suis à l'écoute.
Merci, nous aurons aussi à Boma, si le temps nous le permet, Florent Ngouakala, qui aussi nous écoute régulièrement. Monsieur le ministre, d'abord je vous félicite parce que j'ai appris que vous avez été félicité à New York récemment lors de l'Assemblée Générale. Alors je crois que ça c'est au plaisir de tous nos auditeurs. Félicitations.
Merci beaucoup, Rélin.
Merci. Quel est l'état général du système de santé de la RDC?
L'état général du système de santé en République démocratique du Congo, je peux le dire, comme le chef de l'État a dit, l'état de la nation à la tribune de New York, que c'est un état qui est debout. Debout parce qu'il y a énormément de choses qui sont en train d'être redressées au niveau de la République démocratique du Congo. Je voudrais peut-être résumer très rapidement le système de santé en République démocratique du Congo, comment il est organisé aujourd'hui, et c'est ce qui permet à ce système aujourd'hui de faire face à de nombreuses attaques et à de nombreux problèmes liés à la santé de nos populations. Nous avons d'abord notre unité fonctionnelle, l'unité fonctionnelle qui est représentée par la zone de santé. La zone de santé, aujourd'hui, nous avons 516 zones de santé. Et sur les 516 zones de santé, chaque zone est divisée en aires de santé. Ça, ce sont des unités opérationnelles. Et chaque aire de santé est régie par un centre de santé. Mais au niveau de l'aire de santé, nous pouvons avoir également, pour atteindre les populations les plus éloignées, on peut avoir un poste de santé. À part les zones de santé, nous avons le niveau intermédiaire. Le niveau intermédiaire aujourd'hui est représenté par les provinces, les 11 provinces de la République. Et j'aimerais dire qu'il y a une réforme qui a commencé en 2003, qui s'est accentuée à partir des années 2006 et qui est finalisée dès la semaine prochaine. La RDC va se doter de 26 provinces, divisions provinciales de la santé. Donc ça veut dire tout simplement que nous allons rapprocher le plus possible les décideurs du niveau opérationnel. Et nous avons le niveau national qui est constitué par le ministère de la Santé avec les directions. Actuellement, nous avons 13 directions et nous avons une cinquantaine de programmes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un bon système, c'est celui qui permet justement de pouvoir résoudre les problèmes de la population, les problèmes liés principalement questions sanitaires. Alors, à ce moment-là, nous avons notre système de surveillance qui est l'un des meilleurs systèmes en Afrique. Parce qu'en fait, il part du centre de santé qui fait son rapport à travers le SNIS, le système national d'information sanitaire. Le rapport du centre de santé arrive au niveau de la zone de santé chaque lundi. Et le lundi soir, les IT, c'est-à-dire les infirmiers titulaires, travaillent avec le médecin chef de zone de santé et font le rapport de la zone de santé qu'ils transmettent le mardi au niveau de l'inspection provinciale de la santé. Et au niveau du district sanitaire le mardi, et ça monte le mercredi au niveau de la province, donc de l'inspection provinciale de la santé. Le jeudi, ces informations arrivent au niveau de la direction de la lutte contre la maladie où le directeur de la lutte contre la maladie avec les autres partenaires qui travaillent dans le système de santé se mettent ensemble et chaque vendredi, moi-même, je dirige la réunion de ce que nous appelons le CNC, c'est-à-dire le Comité national de la coordination de la lutte contre la maladie. Et c'est ce qui permet à ce moment-là de prendre des décisions au niveau national. Mais attention, M. Halil, ça c'est le côté luisant du système de santé en République démocratique du Congo, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas des insuffisances. Par exemple, aujourd'hui, je peux vous dire que sur l'ensemble des 516 zones de santé, nous avons un déficit de 111 hôpitaux généraux de référence. Donc, nous devons construire 111 hôpitaux généraux de référence. Et sur environ 6500 aires de santé, nous avons à peine 2000 qui sont construits en matériaux durables et nous avons encore un grand déficit. Nous devons construire à peu près 6500 centres de santé. Mais déjà, le gouvernement, à travers le programme d'équipement des structures de santé, a lancé justement un nouveau programme qui va permettre d'ici 2015 de pouvoir construire 1000 centres de santé et de les équiper et de pouvoir réhabiliter et équiper 200 hôpitaux. Mais il y a un problème qui reste, c'est le problème de l'accessibilité financière justement à ces structures de santé. Nous avons des sérieuses difficultés justement pour rendre ces soins très accessibles sur le plan financier. L'enquête démographique et de santé qui vient de sortir montre qu'en milieu rural, une famille moyenne dépense environ 128 dollars US l'année pour soutenir les soins, alors qu'en milieu urbain, c'est environ 200 dollars. Vous comprenez que, vu le niveau de pauvreté de la population, la situation est très difficile. Voilà un peu peint de manière très succincte le système de santé en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de points forts, mais il y a beaucoup de points à améliorer pour que les soins soient réellement de qualité auprès de la population.
Merci, Monsieur le Ministre, pour ce survol assez clair de la situation avec les succès et les défis. Les capacités en matière de leadership et de gestion font souvent défaut en Afrique, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Et les pays africains se préoccupent d'ailleurs rarement de la problématique gestionnaire. Est-ce le cas dans le système de santé en RDC aujourd'hui?
Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a une chance assez particulière. La chance d'avoir des cadres de très haut niveau. Parce que je vous parle des zones de santé. Ces zones de santé sont gérées aujourd'hui par des médecins. Donc, toutes les 516 zones de santé sont gérées par les médecins et le trois quarts de ces médecins ont pu, au-delà de leur formation diplômante, ils ont eu des cours d'épidémiologie, même si ce ne sont pas des épidémiologistes formés à l'école de santé publique, mais ils ont eu des cours d'épidémiologie accélérés, ce qui leur permet d'avoir des capacités managériales pour pouvoir diriger les zones de santé. Et à tous les niveaux, au niveau des districts, au niveau national, on se rend compte très rapidement que la RDC a des grandes compétences. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas des secteurs pour lesquels nous manquons certaines ressources spécialisées. Et le grand déficit que nous avons, c'est un milieu rural, non pas parce que la RDC n'a pas ses compétences, mais parce que nous avons des compétences qui sont concentrées dans les grandes villes, notamment Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma, Bukavu. C'est là qu'on retrouve toutes les grandes spécialités et nous laissons malheureusement l'intérieur de nos provinces sont ses spécialités dans les ressources humaines. Mais du point de vue gestion, nous devons avouer que des grands efforts ont été faits, non seulement par le gouvernement, mais également tous les partenaires qui nous accompagnent pour la production des ressources humaines capables de pouvoir manager justement notre système de santé.
Monsieur le ministre, pour revenir un peu au cas de Ebola, apparemment vous l'avez contenu en RDC.
Oui, sincèrement, nous devons l'avouer, grâce au leadership du président Joseph Kabila Kabange, qui, je vous le dis, dès l'alerte, parce qu'en fait, le chef de l'État nous a saisis dès l'alerte, et c'est lui qui a donné des instructions, dès l'alerte, que nous puissions aller non pas seulement en mission d'observation, mais que nous allions en mission d'intervention. Nous sommes intervenus dès l'alerte, et depuis ce jour-là, tous les jours, le président de la République doit s'enquérir d'Ebola. Et nous-mêmes, nous avons été dépêchés, ça fait trois fois, parce que hier encore, j'étais à Djerra, j'étais à Lokolia, j'étais donc à Boende, où je suis allé m'enquérir de la situation. Donc, nous avons agi sur trois volets, et je pense que c'est ce qui nous a aidés. D'abord, le volet communautaire. Par le volet communautaire, nous avons eu deux approches assez innovantes. La première, c'est l'approche village par village, où nous avons mis la population au centre. Le chef du village, les leaders sociaux, les chefs religieux, les agents communautaires se sont mis ensemble en créant des comités qui ont commencé à sensibiliser, à faire la recherche active des cas, à référer tous les cas de fièvre vers les centres de santé, bref, à se prendre en charge au niveau local. Nous avons lancé l'opération Pas un ménage sans désinfectant. Le gouvernement de la République ainsi que ses partenaires, nous avons acheté suffisamment de désinfectants qui ont été distribués dans les ménages. Il faut associer à cela la communication, la sensibilisation dans la communauté, où il faut dire que les équipes de communication ont été soutenues par des anthropologues et des psychologues cliniciens. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'était le volet prise en charge médicale. On ne peut pas parler d'Ebola sans parler de la prise en charge médicale, bien sûr. Et enfin, le troisième volet sur lequel nous avons agi, c'est le volet enterrement sécurisé. Durant toute la période, depuis le 24 août où nous avons déclaré l'épidémie, tous les enterrements, qu'il s'agisse de ceux qui sont morts d'Ebola ou d'autres maladies, tous les enterrements ont été sécurisés, donc ont été faits par notre équipe d'hygiène et assainissement. Ce sont ces trois approches qui nous ont permis de pouvoir intervenir et de pouvoir arrêter rapidement, ou plutôt contenir la maladie au niveau du territoire de Boende.
Oui, nous avions vu la dernière fois l'expertise congolaise vers l'Afrique de l'Ouest avec le professeur Muyembe et les Congolais qui sont allés expliquer un peu la manière dont ils traitent Ebola. Est-ce que les pays de l'Afrique de l'Ouest sont en train de bénéficier de cette expertise congolaise?
Le président de la République avait décidé d'envoyer une équipe, et ça, le Premier ministre nous a donné toutes les instructions. Nous avions envoyé le docteur Muyembe, justement, le professeur Muyembe, au Libéria. Mais avant cela, il faut avouer que nous avons eu une grande équipe en Guinée pendant près de deux mois, mais l'équipe du Libéria n'a pu faire une semaine parce que au moment où ils sont arrivés, quand ils ont commencé le travail, malheureusement, nous avons eu à déclarer notre épidémie en République démocratique du Congo. On a dû rappeler toutes nos ressources, mais du haut de la tribune des Nations Unies, le président Kabila a déclaré que nous avons contenu notre épidémie et que nous sommes prêts à pouvoir aider de nouveau nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi je voulais vous annoncer que nous avons un vaste programme de solidarité africaine pour la riposte contre Ebola. Ce programme est déjà en train de prendre corps. Nous l'avons intitulé Solidarité africaine en action, contribution de la République démocratique du Congo à la lutte contre l'épidémie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. C'est une expérience. Nous sommes en train de mettre sur pied un centre de formation au niveau de Kinshasa. Peut-être si les besoins sont plus grands, on les mettra aussi à Kisangani ainsi qu'à Lubumbashi, où nous nous proposons de former d'ici décembre au moins 1000 de personnes. En fait, il s'agit des ressources humaines multidisciplinaires, comme le président Kabila l'a déclaré, c'est-à-dire des épidémiologistes, des biologistes, des psychologues, des ingénieurs sanitaires, donc des hygiénistes, des logisticiens, des cliniciens, anthropologues, communicologues, des ingénieurs en télécommunication, des pharmaciens, des infirmiers, ainsi que des data managers. C'est en fait une équipe de 30 qui doit intervenir, qui doit gérer, si nous sommes au Libéria, nous dirons un canti, donc une zone de santé, une zone de santé aux côtés des locaux, parce que les 30 vont devoir recruter, en fait, au moins 60 agents communautaires dans la communauté qui pourront s'ajouter à l'équipe pour pouvoir gérer un centre de traitement Ebola par les trois approches que nous sommes en train de mener au niveau de Boende, c'est-à-dire la première approche, c'est l'approche communautaire, deuxièmement, l'approche recherches cliniques et troisièmement, les enterrements sécurisés. Je voudrais ici remercier l'OMS, l'UNICEF, la MONUSCO, le OCHA, le CDC, qui sont en train de travailler avec nous et particulièrement la Johns Hopkins University Schools of Medicine, qui a envoyé même des délégués avec qui nous sommes en train de travailler maintenant. Ils sont en train de nous aider à transformer sous forme de protocole l'expérience communautaire que nous avons eue au niveau de Boindé. Donc nous pensons que si tout va bien, le lundi, la formation des formateurs va commencer. Il y a 17 formateurs nationaux et 4 formateurs internationaux qui vont devoir former environ 35 formateurs des équipes. Et nous voulons commencer avec la première vague d'environ 300 personnes qui seront recrutées d'ici les 2 semaines. Et nous pourrons, d'ici le 20 ou le 22 octobre, commencer la formation de la première cohorte. Et les formations vont chaque fois prendre un cycle de 10 jours. Un cycle de 10 jours pour 300 personnels de santé multidisciplinaires. Et ces sortes de dream teams pourront être envoyés au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour accompagner nos frères de l'Afrique de l'Ouest dans cette riposte. Et nous tenons sincèrement à féliciter nos frères de l'Afrique de l'Ouest pour tous les efforts qui sont consentis pour contenir la maladie. Nous savons que la situation est grave, mais le président Kabila a décidé que la RDC se range aux côtés de nos frères ouest-africains pour qu'ensemble nous puissions voir comment inverser la tendance, c'est-à-dire arrêter ou limiter la transmission, contrôler l'infection et augmenter également la survie. Parce que nous voulons, dans les équipes qui vont partir, passer à l'étape également de la recherche opérationnelle. Comme vous le savez, la RDC a eu le mérite d'avoir tenté en premier les expériences de transfusion de sang total. Mais nous pensons qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, dans les centres de traitement qui seront managés par l'équipe de la République démocratique du Congo, nous allons lancer la transfusion du plasma frais congelé des personnes convalescentes, c'est-à-dire des personnes qui ont été guéries de la maladie à virus Ebola. Voilà, Raline, ce que la RDC voudrait faire pour accompagner nos frères de l'Afrique de l'Ouest.
Merci. Sur cette question d'ailleurs, je passe la parole à Jean-Michel Koua. Vous êtes là, Jean-Michel, à Boma. Vous posez votre question justement sur l'exportation de l'expertise congolaise en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je commencerai par le féliciter parce qu'il a la maîtrise de son secteur. Alors, la question que je pouvais poser, c'est de savoir quels sont les indicateurs qui prouvent que réellement le système de santé au niveau de notre pays prend une allure normale. Voilà la question que j'ai à poser au ministre.
Monsieur le ministre?
Merci beaucoup, Jean-Michel. Je pense qu'il y a beaucoup d'indicateurs. Nous avons plusieurs indicateurs qui nous permettent de dire que nous sommes en train d'aller de mieux en mieux vers l'amélioration de notre système de santé. D'abord, ce sont les indicateurs des activités de prévention que je prends. Je prends l'exemple de la vaccination. La vaccination où aujourd'hui tous les indicateurs se sont améliorés, qu'il s'agisse de la vaccination contre la polio. D'ailleurs, je voudrais signaler que la RDC a été retirée de la liste des pays polio. Donc nous avons la vaccination contre la poliomyélite, la vaccination contre la rougeole, la vaccination contre les 5 maladies, donc les pentavalents. Cette vaccination a nettement augmenté. Le nombre d'enfants non vaccinés au niveau de la République démocratique du Congo a chuté au-dessous de 6% d'enfants non vaccinés, ce qui n'a pas été visible pendant plusieurs années. Nous avons par exemple la santé de la mère et de l'enfant. La RDC a signé, comme tous les autres pays du monde, pour les objectifs du millénaire. Il y a quelques années, nous pensions vraiment que nous ne nous rapprocherons jamais de ces objectifs. Mais imaginez un peu qu'en 5 ans environ, le taux de mortalité infanto-juvénile, c'est-à-dire des enfants de 0 à 5 ans, est passé de 148 décès pour 1000 naissances vivantes à 104 décès pour 1000 naissances vivantes. Ça prouve justement qu'il y a eu, en moins de 7 ans, ce taux a été diminué d'environ 30%. Lorsque je prends les accouchements, la RDC aujourd'hui est parmi, finalement, les pays qui ont le taux le plus élevé des accouchements assistés par un personnel de santé. On est environ à 80%. Donc, il y a un certain nombre aujourd'hui qui prouvent justement que la RDC est en train de s'améliorer. Et en ce qui concerne les infrastructures, avec le programme du gouvernement, nous venons de très loin, mais nous pensons que d'ici là, nous allons encore améliorer davantage les structures de santé. Et dans ce programme du gouvernement, non seulement qu'on est en train de réhabiliter ou de construire de nouvelles infrastructures, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Nous sommes en train d'équiper ces structures, nous sommes en train de doter ces structures en médicaments, y compris les contraceptifs. Voilà un peu, je sais que je n'ai pas tous les indicateurs, mais je préfère vous dire sincèrement que nous sommes en train d'améliorer dans la plupart d'indicateurs en ce qui concerne le VIH. Nous avons également amélioré en ce qui concerne la prévalence. Donc, il y a plusieurs indicateurs qui sont en train de montrer que la situation de la santé en République démocratique du Congo est en train de s'améliorer, M. Michel.
Merci, Monsieur le ministre. Cap sur Kananga, où nous trouverons Dieudonné Ndaye. Vous êtes là, Dieudonné?
Oui, je voudrais poser la question à Monsieur le ministre de la Santé, que je salue en passant. Tout d'abord, je le félicite par rapport à son intervention. Mais le système de santé, ce qu'il est en train de faire pour améliorer le système de la santé dans notre pays, précisément dans la province du Kasaï occidental, là où il y a eu beaucoup d'indices de culpabilité qui se dessinent dans le secteur de la santé. Nous avons, je peux citer, la vétusté des hôpitaux, à part les hôpitaux que l'utilisateur nous a conçus. Et actuellement, je n'ai pas vu dans le programme du gouvernement en train de réhabiliter d'autres hôpitaux. Et il y a aussi la prolifération des centres de santé, qui ce sont les médecins qui détournent les malades pour les amener dans des centres de santé privés. Même dans les hôpitaux publics, un malade qui entre malade, qui sort encore plus malade, les détournements des produits pharmaceutiques, s'il y a des dons qui arrivent à l'hôpital le matin et le soir, sont renvoyés ailleurs, et même les comités de gestion, les CODESA qui se trouvent dans des zones de santé, dans des zones de santé, ils sont pris en otage par les médecins directeurs et sont dictés. Donc il n'y a pas la redevabilité, il n'y a pas même la transparence, il n'y a pas même le contrôle. Ce sont les acolytes qui travaillent avec les médecins de santé. En plus de cela aussi, il y a le problème aussi de la vétusté des personnels médicaux. Vous trouverez dans d'autres hôpitaux de l'État, si vous trouvez des infirmiers de depuis 1960 qui continuent à travailler, mais les jeunes gens qui pratiquent, qui ont terminé aujourd'hui, qui peut-être n'ont pas assez d'expérience, mais parce qu'ils ne sont pas matriculés, ils ont difficile à aller travailler dans des hôpitaux. Et puis, les médecins, qui ne veulent pas aller travailler à l'intérieur. Comprenez avec moi que sur l'ensemble de la province du Kasaï occidental, nous avons un seul cardiologue. Nous avons un seul spécialiste chirurgien et avec autant de populations que nous avons dans notre province. Qu'est-ce que le ministre est en train de faire pour améliorer le système de santé au vu de tous ces éléments que j'ai évoqués?
Longue question, mais intéressante quand même de Dieudonné, Monsieur le ministre. Peut-être qu'on peut résumer, revenir sur la vétusté des hôpitaux, le changement du personnel, et le manque de spécialistes comme le cardiologue unique qui est dans la province, etc. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement, Monsieur le ministre, sur cette question particulière au Kasaï occidental?
Merci beaucoup, Monsieur Dieudonné Ndaye. Je pense que vous posez d'abord fondamentalement le problème des ressources humaines en santé. Je dois sincèrement avouer que l'un des grands défis auquel le secteur est confronté, c'est justement ce problème des ressources humaines en santé. C'est vrai que nous devons avoir une politique assez incitative pour permettre à ce que le personnel de santé, particulièrement le personnel qualifié tel que les médecins, puisse avoir la possibilité de pouvoir descendre justement dans les milieux ruraux. Nous avons le problème de ce personnel qui n'est pas payé. C'est vrai, nous sommes conscients, mais je pense qu'il y a eu à un certain moment l'affectation de personnel de manière pléthorique dans les structures de santé, si bien qu'il y a des gens qui ont été mécanisés, qui malheureusement ne sont pas dans le secteur, ça il faut le dire, parce que des enquêtes sont en train d'être faites justement à tous les niveaux pour essayer de rationaliser justement ce personnel. En ce qui concerne les perspectives, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, nous avons mis sur pied un observatoire des ressources humaines en santé. Il est important que nous puissions savoir qui est où et qui fait quoi. Cela va nous permettre, d'ici 2015, de pouvoir une cartographie clair des personnels de santé afin que nous puissions commencer à payer uniquement le personnel qui est en train de travailler dans les structures de santé. Pour ce qui concerne la vétusté de nos hôpitaux, je pense que j'ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre, mais c'est un programme très ambitieux, le programme d'équipement des établissements de santé que nous appelons le PESS. En fait, ce programme vise à réhabiliter 200 hôpitaux, à réhabiliter et à construire 1000 centres de santé. Et cela se fait de manière équitable sur l'ensemble de la République. Lorsque je prends l'exemple de la province du Kassai occidental, je dirais tout de suite que la province du Kassai occidental va voir 18 hôpitaux du Kassai être réhabilités, être équipés, être dotés en médicaments. Et pour chaque hôpital qui est réhabilité, il y a 5 centres de santé autour. Donc il y aura 90 centres de santé qui seront équipés. Mais je reconnais, ensemble avec Dieudonné, je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons des provinces entières, les Bandundu par exemple, mais nous n'avons pas de spécialistes. Donc il y a des provinces entières. Une fois que nous aurons terminé de savoir qui est où et qui fait quoi, nous allons faire la politique d'incitation pour voir ce que nous pouvons donner aux médecins spécialistes qui peuvent accepter d'aller en milieu rural, d'aller dans les provinces, que nous puissions voir comment on peut les motiver de manière supplémentaire par rapport au personnel qui reste à Kinshasa ou dans les grandes villes.
Merci, monsieur le ministre. J'espère que notre ami est d'ailleurs satisfait de ses réponses. Nous sommes à la fin de l'émission. Je voudrais peut-être lancer une dernière question de Jean-Michel Kouaï. Jean-Michel ?
Est-ce que l'épidémie actuelle, les fièvres hémorragiques d'Ebola, comment le gouvernement entend résoudre les problèmes par rapport à notre système de santé en République démocratique du Congo?
Tout ce que je peux dire, c'est que nous voulons potentialiser cette épidémie pour que vraiment la riposte soit plus rapide et que les interventions soient immédiates à travers toute la République. Et d'ailleurs, dans les équipes qui seront formées à Kinshasa, il y aura également les équipes de toutes les provinces. Parce que, je l'ai toujours dit, tant que la forêt perdissera, Ebola sera toujours avec nous. Donc nous pensons mettre des équipes de riposte, nous pensons améliorer notre système de contrôle de l'infection à travers notamment le programme Les Précautions Universelles d'hygiène, l'hygiène des hôpitaux, parce que ça c'est un élément très important, mais nous allons continuer à pouvoir mettre la population au centre de la sensibilisation à travers tout le pays.
Monsieur le ministre, une question beaucoup plus personnelle. Quel a été votre sentiment quand vous avez été félicité à l'Assemblée générale des Nations Unies, la RDC et votre travail en matière de santé?
Un sentiment de grande joie. Un sentiment de grande joie quand j'ai entendu le président Kabila dire que la RDC était de nouveau debout. Toutes les félicitations qui ont été apportées à la RDC par rapport à la riposte de l'épidémie à Ebola montrent vraiment, et j'en suis fier, que la République démocratique du Congo peut montrer son bon côté, l'Afrique peut compter avec la République démocratique du Congo et que cela nous encourage à faire mieux, à améliorer davantage et à être un exemple pour l'Afrique, non seulement dans le domaine de la santé, mais un exemple de leadership, de gouvernance au niveau du continent africain.
Merci, monsieur le ministre. Au revoir et bonne soirée à Kinshasa. Et merci pour votre temps.
Je vous remercie.
Au revoir, Jean-Michel Kouaï.
Au revoir et merci à tous nos auditeurs. Merci beaucoup.
Au revoir, Dieudonné.
Merci. Au revoir à tous les auditeurs de la Voix de la Vérité.
Votre santé, votre avenir, c'est terminé. You've heard that I'm wild and I'm free. Technique Skip Six. I can promise you now. This love that I feel for you always. Réalisation Fatima Kalala. You're not just time that I'm killing. I'm no longer one of those guys. As sure as Micro Khalil Gay, au revoir et à la semaine prochaine. Is gonna be yours until the day that I die.